Chapitre 62. Juin 2019. Je fixe l'écran. Il y a deux inspecteurs de police. Un noir, un blanc. Le policier de couleur s'appelle Samuel Owusu et il a l'air d'être le chef. Il appuie ses coudes sur la table de la salle d'interrogatoire londonienne d'où il me parle et me sourit chaleureusement.
Henry Lamb, enfin nous nous rencontrons.
Je ne savais pas que vous me recherchiez, répliquai-je.
Non, en effet, vous êtes difficile à contacter.
Après une période très stressante au travail, j'avais besoin de partir, loin.
Et vous venez de mettre la main sur une coquette somme en plus.
Oui, mais ça n'a aucun rapport. J'avais déjà un bon pécule avant d'acquérir celui-ci. J'avais besoin de m'évader, de me détendre. Ça fait un an que je suis coincé dans un appartement avec ma sœur, ses deux enfants et leur chien. J'ai besoin d'espace.
Ce qui explique pourquoi vous ne répondez ni aux appels ni aux messages.
Exactement. Je jette un coup d'œil au policier blanc. Je vois bien qu'il me méprise, que je représente tout ce qu'il déteste. Je lui lance un regard taquin, un peu dragueur, juste pour le mettre mal à l'aise. Ça ne manque pas. L'inspecteur Owusu m'expose rapidement les résultats de son enquête. Il est très content de lui, à ce que je vois. Et pour être honnête, il a bien raison de l'être, mais je lui ai vraiment mâché le travail. Je rejoue en boucle ces moments dans ma tête. Ce jour de juin, l'année dernière, quand Libby venait de récupérer les clés du 16 Shenwalk, le soleil du soir m'avait chauffé les épaules pendant que j'étais monté sur le toit, avait soulevé la bâche cachée derrière la cheminée, et retirer les feuilles mortes, les brindilles et branches cassées que d'anciens vents d'hiver avaient déposées là. J'avais observé un instant le sarcophage sale, constitué de vieilles serviettes et de draps sous la bâche, puis j'avais défait une à une les couches fibreuses et découvert, choqué et fasciné, le petit squelette qui se trouvait à l'intérieur. Puis j'avais rapidement disposé les os les uns après les autres dans un sac poubelle. Je me souviens de m'être ensuite faufilé dans la maison, puis de m'être ouvert une bière fraîche que j'avais sirotée au soleil, les restes de Birdie gisant à mes pieds avant d'allumer un feu pour brûler les serviettes. J'avais patienté jusqu'à ce que la nuit s'annonce, puis j'étais sorti avec mes deux bouteilles de bière vides et le sac poubelle, et j'avais traversé la rue jusqu'à la Tamise, que le soleil couchant s'apprêtait à embraser. J'avais attendu que le passage des bateaux s'interrompe, et je me préparais à ouvrir le sac et à jeter les eaux dans le fleuve quand une péniche surgie de nulle part avait activé sa sirène, ce qui m'avait fait sursauter et perdre l'équilibre, précipitant le sac dans l'eau. J'avais essayé de le rattraper, mais le courant l'avait emporté, et je n'avais rien pu faire d'autre que le regarder voguer sur les flots, ce tas de Birdie, tout ce qui subsistait d'elle, avec tous les indices que le sac contenait, jusqu'à ce que je le perde de vue. Allait-on le retrouver? Aucune idée. J'espérais cependant que, si ça devait être le cas, il serait trouvé dans des poissons ou des oiseaux, ou bien dans 10 ans, 100 ans, 1000 ans, et que je n'en entendrais plus jamais parler. Mais apparemment, elle n'a pas réussi à se faire discrète plus d'un an, et ça, c'est complètement ma faute.
Monsieur Lamb,
c'est la première fois, je crois, de toute ma vie qu'on m'appelle ainsi. Et je manque de me retourner pour voir si mon père ne se tient pas derrière moi. Monsieur Lamb, c'est bien moi, quels que soient les autres noms que je me suis attribué depuis. Je l'avais presque oublié.
Quelqu'un s'est rendu dans la maison de Shenwalk l'été dernier pour y récupérer les restes de Birdie Dunlop Evers sur le toit et les jeter dans la Tamise,
reprend l'inspecteur.
Qui aurait pu faire ça, si ce n'est pas vous, bien entendu?
Il me fixe du regard, et même à des milliers de kilomètres de distance, même par écran interposé, je vois la puissance de ses capacités d'analyse comportementale, et je sais qu'il pourrait me confondre en lisant chaque recoin, chaque atome de moi, si je lui en laissais l'occasion. Mais il me sous-estime. J'ai passé ma vie entière à contrôler mon langage corporel et à dissimuler qui je suis. Il ne tirera rien de moi. Rien. En tout cas, ce n'est pas moi, ni Lucie. Avez-vous étudié la possibilité que ce soit une autre personne présente à l'époque?
Ah, Vous voulez dire les enfants Thompson, par exemple? Nous avons vérifié leur agenda de l'année dernière, et ils n'étaient pas à Londres. Même si c'était le cas, ils n'auraient pas pu pénétrer dans la maison sans la clé. Il semblerait, selon nos informations, que vous êtes les seuls avec votre sœur et votre nièce à avoir eu accès au lieu.
« Vous vous trompez, » lançai-je triomphal.
« En quoi, s'il vous plaît ?»«
Vous avez tort de penser que la seule façon d'entrer dans la maison est d'avoir la clé. Il y a une autre porte. » Je vois les deux inspecteurs se décomposer quand ils comprennent que leur théorie en béton prend l'eau.
« Une autre porte ?»«
Oui, au fond du jardin, qui permet d'aller chez les voisins de derrière. Elle est recouverte de lilas. Vous ne l'avez peut-être pas vue ?»
« Vous suggérez donc que quelqu'un résidant dans la maison située le 16 Shenwog aurait pu emprunter cette porte pour s'introduire dans le jardin, grimper sur le toit et retirer les ossements de Madame Dunlop Evers ?»«
Non, pas tout à fait. Cette maison est divisée en plusieurs appartements et le jardin a d'ailleurs été transformé en petit parking, très facilement accessible de la rue. N'importe qui aurait pu entrer. » Je me délecte du court silence qui suit ma déclaration. Est-ce que je peux reprendre le cours de mes vacances maintenant, inspecteur?
Excusez-moi, monsieur Lamb, mais nous avons encore quelques questions à vous poser, si cela ne vous dérange pas.
Je ne vois pas bien ce que nous pourrions nous dire de plus. Vous savez tout. Birdie Dunlop Evers était une psychopathe. Elle a martyrisé notre famille pendant plus de 5 ans. Elle a manipulé ma sœur pour qu'elle couche avec un homme alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle a volé son bébé. Elle faisait partie d'un projet de suicide collectif qui a emporté David Thompson et mes parents. Mais pour une raison inconnue, elle est morte d'un coup à la tête, qu'elle avait certainement bien cherché et qui aurait pu lui être administrée par une pléthore de gens, puisqu'elle était unanimement détestée et qu'elle était très dangereuse. Nous avons désormais établi qu'à peu près n'importe qui aurait pu entrer par le jardin pour, comme vous le dites, retirer les ossements du toit et les jeter dans le fleuve. Je crois, monsieur l'inspecteur, qu'il est grand temps de ranger à nouveau votre enquête parmi les affaires classées. Et dire que vous avez dérangé Interpol pour ça, c'est gênant. Samuel essaie de me décrypter quelques secondes de plus, puis il s'enfonce sur sa chaise et jette un coup d'œil à ses documents.
Quelques questions supplémentaires, si cela ne vous dérange pas.
Je lui lance un regard sombre. Quoi encore?
Selon votre sœur, vous êtes la dernière personne à avoir vu Libby Jones, le bébé Serenity de l'époque, en quittant la maison. Pourtant, au moment où la police est arrivée sur place, les corps de Monsieur Thompson et de vos parents reposaient dans la cuisine depuis au moins 3 jours. Que s'est-il passé, s'il vous plaît, dans cet intervalle? Qui était là et pour faire quoi?
« Personne n'était là, » soupirai-je. Tout le monde s'est enfui en me laissant gérer seul toute cette merde. Lucie m'a laissé avec son bébé. Il fallait que je prenne la situation en charge. Je suis resté aussi longtemps que possible. Je lui fais ma tête d'enfant martyr et pousse un nouveau soupir.
« Mais enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas, monsieur Lamb. Vous n'étiez pas vieux à l'époque, d'accord. Mais pourquoi n'avez-vous pas alerté la police ? Vous étiez 4 adolescents séquestrés dans une maison par des adultes abusifs, des violences sexuelles avaient eu lieu, ainsi que d'autres types de sévices contre des mineurs. Et enfin, vos oppresseurs étaient morts, vous étiez libres. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police à ce moment-là? On vous aurait aidé. »
Une bonne question. Je me redresse et fixe l'écran intensément. Nous étions traumatisés. Nous étions brisés. Nous étions perdus. Je n'ai pas d'autre explication à vous donner. Les décisions que j'ai prises quand j'avais 16 ans sont si anciennes qu'elles me paraissent l'œuvre d'un étranger. Si je devais revivre ces jours-là, j'appellerais évidemment la police. Mais malheureusement, les choses se sont déroulées autrement. Samuel soupire, et je sais que je l'ai battu.
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre temps, monsieur Lamb. J'aurai besoin de rester en contact avec vous tant que l'enquête est en cours. Je dois donc vous demander, ainsi qu'à votre sœur, de revenir à Londres immédiatement et d'y demeurer.
L'écran s'éteint un instant plus tard, et je me retourne vers l'agent qui se tient à mes côtés. Je peux y aller ?
On dirait bien, oui.
Une fois à l'air libre, j'allume mon téléphone. Je sens un picotement dans ma gorge, des sanglots qui se forment. Un sentiment d'inachevé, de manque. Mais cette fois, ce n'est pas le besoin de me perdre, au contraire. C'est le besoin de prendre ma sœur dans mes bras, d'être avec ma famille, en sécurité. Je veux voir mes chats, mes collègues. Je veux aller courir à Regent's Park. Je veux rentrer à la maison. J'appuie sur quelques touches et je débloque le numéro de ma sœur. Aussitôt, je reçois un tas de messages de sa part. J'ouvre le plus récent. «
Je suis désolé. Je voulais qu'on en finisse. J'espère que ça va. Appelle-moi, s'il te plaît. »
Je m'exécute. « Bonjour, très cher. »«
Oh mon Dieu, Henry, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé avec la police? Tu es où ?»
Je lui réponds que tout va bien, que je suis libre. Je lui dis où je me trouve et elle m'apprend qu'elle loge dans l'hôtel que j'avais pris en arrivant à Chicago quelques jours plus tôt. Elle m'attend dans le hall avec Marco et Stella. À ma grande surprise, ils se jettent tous les trois dans mes bras quand ils me voient. Je suis submergé un moment par ces odeurs familières et c'est une sensation absolument magique. Je les serre fort. Puis on commande à manger et je sens enfin un poids quitter ma poitrine. Même si je sais que ce n'est pas fini, que l'inspecteur Owusu est en train de chercher de nouvelles pistes, de nouvelles questions à poser, et bien que je ne sois pas encore tout à fait tiré d'affaire, je crois que, pour la première fois depuis ce matin d'avril 1994, où j'ai abandonné les cadavres de mes parents sur le sol de la cuisine, et le bébé qu'était Libby dans son berceau, avant de m'élancer dans les rues de Londres avec 1000 livres dans la poche du costume sur mesure de mon père, je puis me projeter. Et ce que je vois est beau. Et je veux cet avenir. Je me sens serein, enfin. Et, excusez s'il vous plaît cette remarque de hippie, vous savez bien que ce n'est pas mon genre, mais j'ai l'impression de renaître. Chicago m'a guéri. Lucie et ses enfants m'ont guéri. Et maintenant ses pattes, aglio et olio onctueuses, me guérissent. Quand je rentrerai à Londres, je reprendrai mon identité. Je redeviendrai Henry Lamb, ce petit garçon que j'ai vu pour la dernière fois dans un miroir de la maison de Chelsea il y a de nombreuses années. Je n'ai plus de raison de me cacher à présent, plus aucune raison.
« Au fait, »
lance Lucie en me tirant de mes pensées,
« je n'en reviens pas de ne t'avoir toujours pas demandé. Et Fine, tu l'as trouvé ?»
Je manque de m'étrangler avec un spaghetti et porte ma serviette à ma bouche. « Non, malheureusement non. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. » Je lis une expression que j'ai du mal à analyser sur ses traits à ce moment-là. Elle ne me croit pas. Elle a peur. Son visage reprend sa bienveillance habituelle avant que je ne puisse mettre le doigt dessus. Et elle me sourit.
« Ah, c'est que ça ne devait pas arriver alors. »
« Peut-être pas, non. Peut-être pas.